RJR 106.1 et en DAP+, à Reims.
Salut, c'est Greg. Du lundi au vendredi, on se retrouve tous les jours dans RJR Matin de 6h à 9h sur RJR. Les infos, la météo, l'astro, des bons plans, des cadeaux, des chroniques et surtout la sélection RJR pour bien se réveiller en musique. Bref, tout ce qu'il faut pour démarrer la journée du bon pied avec le sourire et la bonne humeur. Alors demain matin, rendez-vous dès 6h.
RJR Matin.
Vous avez un événement à marquer ? Festival, soirée BDE, association, club sportif ou projet perso, faites-le à votre image avec le Coin du Prince. T-shirt, casquette, goodies, éco-cup et bien plus encore, le Coin du Prince personnalise vos idées et vous accompagne de A à Z. Une équipe familiale dynamique, à votre écoute pour un résultat qui vous ressemble vraiment. Rendez-vous sur lecoinduprince.fr ou dans leur boutique au 29 rue du Commerce à Cormontreuil. Suivez le Stade de Reims dans le championnat de Ligue 2 BKT. Samedi 5 septembre à 14h, le Stade de Reims reçoit Guingamp au Stade Auguste Delaune. Réservez vos places à la boutique officielle du club ou en ligne sur billetterie.stade-2-reims.com.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR, Astrolone.
Trouver trop frein à guicheur pour ton marmot. Écoute celui-là, c'est le flow des gospos. L'heure tourne, le succès, toujours pas au rendez-vous.
Boy et Ram. Thomas Legrand.
Toi tu rêves d'ailleurs, tu joues avec ma vie, avec mon cœur.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR. Radio Jeune Reims.
C'est la rentrée, on est tous contents d'aller bosser. Vive la rentrée, on voit enfin le bout de l'été. C'est la rentrée, le matin on peut se réveiller pour la rentrée.
Moi j'aimerais ouvrir le débat.
Ah mais non, là ça, laisse ça, non.
Sport Club.
Le football, c'est franchement, c'est magnifique.
Ah oui, hein.
Le talk.
Avec le Crédit Agricole du Nord-Est sur RJR.
Et ben ça y est, on y est. Salut tout le monde et bienvenue dans le talk de Sport Club. Avec le Crédit Agricole du Nord-Est, vous l'avez entendu, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée. Et oui, on est sponsor cette année quand même. Donc merci évidemment. On remercie toutes les équipes du Crédit Agricole du Nord-Est pour leur confiance. Vous écoutez RJR, il est 19h, passé bientôt de 3 minutes. Et c'est donc parti pour 2 heures de sport. Ça y est, on est reparti pour une 16e saison déjà. La première, c'était en 2011. Vous nous écoutez toujours sur le 106.1 en FM, en DAB+, ou bien sur le site internet rjrradio.fr, sportclub-reims.fr. Je suis très heureux évidemment de vous retrouver pour parler de foot, évidemment entre 19h et 20h, et puis également pour parler omnisport. Tout à l'heure, à partir de 20h, nos premiers invités de la saison, ce seront Jehan Anissé, qui a été médaillé de bronze au championnat de France d'athlétisme, c'était au mois de juillet dernier, et puis de façon un peu plus récente, Eve Dubec, qui sera notre invité en studio tout à l'heure. Elle qui a remporté sa première compétition en senior en patinage artistique. Elle succède d'ailleurs à une illustre qui a fait les Jeux Olympiques, d'ailleurs, Laurine Schild. C'est Eve Dubec donc, qui sera avec nous dans quelques instants, tout à l'heure, à partir de 20h. Avant ça, je l'ai dit, donc, on va parler foot, on va parler Stade de Reims, on va parler foot régional, avec des voix qu'on connaît déjà, pour certaines. C'est le cas notamment, et c'est un plaisir de le retrouver, de Gauthier. Salut Gauthier.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Julien.
L'été s'est bien passé ?
Oui, pas terminé encore, je suis encore dans le travail.
Ah, oh, ça y est, ça me dégoûte déjà. Mais tu bosses ?
Mais je travaille, voilà, moi je travaille. le gars qui fait la leçon de morale, tu sais. Moi c'était assez. C'est voilà. Calme finalement.
Je suis pas 19h04, on l'a déjà perdu. Ils nous ont déjà fait un AVC.
C'est la reprise, s'il vous plaît.
Bon, alors, je compte sur toi quand même un peu soir pour donner de la force aux deux nouvelles voix que vous allez découvrir cette saison. Et on est très très heureux de les accueillir tous les deux. Ils ont décidé de faire leur première courageusement ce soir. Plaisir, par galanterie, je commence par les filles, d'accueillir Marie. Salut Marie.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Ça fait bizarre d'entendre sa voix déjà dans le casque. Bienvenue. Sois la bienvenue. Toi qui vas analyser, commenter, débattre avec nous sur l'actualité. Toi qui connais bien le foot, puisque ça fait quelques années que tu y joues en plus. Hein, donc voilà.
C'est ça.
Bon, bienvenue à toi. N'hésite pas à prendre un peu de place parce que tu sais, les garçons, ils en prennent. Hein. Donc voilà. Et puis même chose finalement à toi, Shérif. Bienvenue dans l'équipe.
Bonjour Julien, bonjour à tous, merci beaucoup.
Shérif, pour celles et ceux qui vont te découvrir, c'est qui en un ou deux mots? Enfin, tu peux même faire plus que deux mots en vérité.
Ouais, on va essayer de faire court quand même. Shérif, passionné de foot. Voilà, j'aime beaucoup parler de football, analyser les matchs, donner mon avis. C'est ce que je vais essayer de faire tout au long de la saison avec vous.
Eh ben avec grand plaisir, j'imagine que les débats seront passionnés et on va essayer d'être le plus juste possible. Vous qui nous écoutez, on va pas changer la méthode, hein. On va continuer de parler du Stade de Reims, ce sera le cas évidemment ce soir. On a déjà disputé 4 journées de Ligue 2, donc on va y revenir dans quelques instants. On va faire le... c'est compliqué de parler de bilan après 4 journées, mais on va faire un point sur ce début de saison. Et puis on fera un petit tour d'horizon également du foot régional, parce que ça y est, c'est parti aussi dans les divisions Grand Est, R1, R2. On fera un point aussi sur le foot féminin qui va pas de la meilleure des façons, hein, on va pas se le cacher dans la région avec le porte-étendard, les filles du Stade de Reims qui ont un peu éclaté. Le premier jingle pour récapituler, ça, on ne l'a pas changé, les résultats foot du week-end, le petit jingle qui va bien, c'est parti.
Sport Club, l'actu foot.
On a une petite pensée pour Pierre qui était un peu notre monsieur Actu Foot, alors qu'il reviendra, hein, évidemment. L'équipe est quand même importante là, donc c'est voilà des voix que vous allez retrouver évidemment. Et Pierre, on le salue s'il nous écoute, j'en suis persuadé. Là, c'est toi Gauthier qui t'y colle et on commence assez traditionnellement par la Ligue 2 donc.
Allez, on commence avec la Ligue 2. Donc côté Ligue 2, on a joué donc la 4e journée, yes. Qui n'est pas terminée, puisque ce soir Dijon recevra Saint-Etienne pour conserver cette première place avec le Stade de Reims qui suit en deuxième place. Cette 4e journée qui a commencé avec Clermont, hein, qui allait chercher un match nul à domicile face à Sochaux. Le Stade Lavallois qui s'est incliné à domicile 3-0 face à Grenoble. Montpellier également un nouveau match nul de leur côté face à Boulogne. Nancy s'est imposé à domicile face à Dunkerque. Rodez a cherché le match nul face à Pau à domicile. Et puis samedi, Annecy a fait également un match nul, beaucoup de matchs nuls hein, en Ligue 2.
Tant mieux pour les Stadeurs.
Face à Metz, le Restar s'est incliné à domicile face au Stade de Reims dont on parlera juste après. Et puis Guingamp a réussi à accrocher, finalement c'est eux qui ont réussi à accrocher le match nul à domicile face à Nantes après un très bel exploit de remontée de la part des Canaries.
Oui, absolument, qui ont un début de saison quand même délicat. On rappelle qu'ils sont quand même descendus de Ligue 1 la saison dernière après une saison bien compliquée.
Et un changement d'entraîneur
compliqué,
aussi, déjà.
Et un changement d'entraîneur. Michel Derzakarian, qu'on connaît bien à Reims. Qui a tenu moins longtemps à Nantes.
En espérant ne pas changer d'entraîneur cette saison, peut-être un retour.
Va savoir.
Non.
Faut jamais insulter l'avenir. Le classement donc pour la Ligue 2, t'as dit donc Saint-Etienne en tête.
Alors Saint-Etienne qui est actuellement en tête avec 9 points et potentiellement plus en cas de victoire de Saint-Etienne. Derrière est suivi par le Stade de Reims et Montpellier avec 8 points. Rodez, Nancy, Annecy qui descend jusqu'à la 6e place avec 7 points. Metz avec 6 points et puis après on retrouve à partir du milieu de tableau donc Red Star, Sochaux, Dunkerque, Guingamp, Pau, Grenoble, Stade Lavallois, Boulogne et puis pour les 3 dernières places actuellement on retrouve Clermont, Dijon. Et la surprise, bien évidemment, c'est Nantes qui se positionne à la 18e place avec seulement un petit point. Le plus petit faible de points.
Ouais, le plus faible nombre de points.
Le plus faible nombre de points, on va y arriver. Voilà, du classement actuellement.
Bon, c'est que le début de saison, hein. 4 journées, ça va être très long hein, ce championnat.
Et oui, très très long.
Déjà pour toi, cette émission est longue, non?
C'est une épreuve, là.
on continue quand même, puisque il y a donc, on parlait du foot régional, la R1, qui a démarré. Ça y est, on disputait, je crois, la 2e journée ce week-end.
Ça a commencé ce week-end et c'est déjà la 2e journée d'ailleurs. Tu le disais, le Stade de Reims 2 a réussi à s'imposer à l'extérieur face à Amnéville sur le score de 3-0. La Neuvillette a réussi à avoir un match nul face à Marnaval, 3-0. Ucamps s'est imposé à domicile face à Camontreuil, 2-0. Ce qui fait qu'actuellement, donc Reims B est premier avec 6 points, suivi de Camontreuil à la 7e place. Donc on parle bien sûr des résultats locaux. Camontreuil 7e avec 3 petits points et puis Reims Neuvillette 9e actuellement avec 1 point.
La réserve du Stade de Reims, qu'on devrait appeler normalement Reims Révélation, on en parlera Révélation. Avec Shérif tout à l'heure, c'est un des nouveaux projets.
On verra ce qu'ils ont à nous révéler. Hein.
Reims Révélation qui est en 2 parties et je crois que l'autre partie qui n'est pas engagée dans un championnat de façon officielle a joué un match amical ce week-end, c'était contre une réserve de Lens et ils ont perdu 4-2. Voilà, pour être tout à fait complet. Donc ça c'est pour la R1 chez les garçons, il y en a une aussi chez les filles.
Foot caviar, le Stade de Reims s'est incliné à domicile. Et oui, retenez votre souffle, 5 buts à 0 face à
Toulouse. C'est le début. Début d'une nouvelle ère.
J'y crois.
Voilà. Alors, il y en a qui y ont cru et ils ont eu raison, parce qu'il y a toujours des exploits en Coupe de France. Il y en a eu quelques-uns lors de ce deuxième tour qui se tenait principalement hier.
Alors, côté Coupe de
France. Allez, bon courage.
bon courage.
On rend l'antenne à 20h.
Parce qu'il y a des résultats, il y en a pas mal. Alors, Amical des Sportifs qui s'est imposé 2 buts à 0 face à Bétheny. Les Évaluès s'est incliné à domicile 5 buts à 1 face à Saint-Brice-Courcelles. Cheveuge a réussi à accrocher un match nul et à s'imposer face à Sainte-Anne au pénalty 4 ouais. Donc tir au but à 1.
Ça, c'est une des surprises, ouais.
Courtisol s'est donc incliné 6-0 face à Reims-Christo. Alors, Gueux Haï, arrêt du match.
Le match n'a pas été fini.
N'a pas été terminé. Shérif, peux-tu nous dire pourquoi?
Alors, d'après mon petit frère qui joue à Gueux et qui était sur la pelouse, il y a eu des petits soucis avec l'arbitre, pas mal d'agitation. Et du coup, l'arbitre a préféré arrêter le match parce qu'il ne se sentait pas en sécurité.
Allez, ça commence.
C'est les échos
que j'ai eu du terrain. J'étais pas sur place.
Tour, hein. Nous ne sommes qu'au deuxième tour.
Deuxième tour du Coupe de France.
Ça arrive. Effectivement, mon club de cœur, Vitry-les-Reims, s'est incliné à domicile face à Fagnières 1-0. L'Union Saint-Rémois. Je découvre les noms. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des clubs qu'on découvre. C'est vrai, il y a beaucoup de clubs de district.
J'ai pas l'habitude en plus de faire des points scores.
Mais c'est ça aussi le charme des premiers tours de Coupe de France. Hein.
Il y a un très beau nom, vous verrez après. L'Union Saint-Rémois.
Bon teasing.
Match nul, 3 buts partout et a réussi à s'imposer face à Mison, 4 tirs au but à 2. Mérimarne. Et oui, ça existe. C'est imposé. On prend toute la région.
Je pense que c'est même Mairie sur Marne, mais ouais.
Ouais, mais moi j'ai un slash. Ouais. Oh là là.
Donc ils se sont qualifiés ou ils ont perdu?
Non, ils se sont qualifiés 6 buts à 2. Face Ardennes.
Ardennes 51, oui, c'est un club de gens. Alors initialement, parce que ça a changé depuis, qui étaient d'abord d'origine ardennaise, qui sont venus ici pour la plupart faire leurs études ou travailler, qui avaient créé un club en hommage à leur département d'origine. Ardennes 51.
Voilà.
Et ils ont perdu.
C'est pas
donc on n'en parlera pas au prochain tour, c'est pour ça que je le dis maintenant.
Wari Urès face à Tinqueux. Deux buts partout, mais qualification de Wari. Donc 4 tirs au but à 1. Alors il y a des noms, je sais plus comment je les ai. Bezanne 205
Le 2050.
2050.
Ouais.
2050. C'est incliné à domicile face à Reims Espérance 5 buts à 2. C'est ça, Reims Pays de France. Et lui, ça existe, Reims Pays de France. C'est incliné 2 buts à 1 face à Murigny. Et puis Olympique Rémois incliné sur un gros score de 9 buts à 0 face à ESD Côte-au-Sud.
Ouais, Côte-au-Sud, je crois qu'en niveau régional, je crois qu'ils doivent être en R3. On va suivre le prochain tour, hein. Ça sera dans 15 jours, je crois, le prochain
mais
tour.
J'aime bien ce nom, Reims Pays de France. C'est...
Ouais, c'est compliqué.
De France.
Tiens, puisque tu parles de la Coupe de France et des quelques exploits qu'il y a eu, il faut savoir qu'il y a un nouveau dispositif, on en parlait tout à l'heure hors antenne, qui a été mis en place par la Fédération Française de Football, qui s'appelle le bonus exploit. En fait, c'est une dotation qui est proposée à l'échelle nationale pour tous les clubs qui réalisent un exploit et considéré comme un exploit par la Fédération Française, les clubs qui dominent un autre club qui est d'au moins 2 divisions supérieures. Et donc, pour chaque tour, il y a une enveloppe à se partager. Là, pour le deuxième tour, on en est à 185 000 euros. Alors forcément, plus il y a d'exploits, moins chacun a, puisque l'enveloppe ne bouge pas. Hein. L'enveloppe, c'est 185
000. Ça a départagé chaque tour en
voilà.
Fonction des...
Mais par contre, ça peut se cumuler de tour en tour selon les tirages au sort et selon les parcours de chacun. Voilà, belle initiative. Voilà, le troisième tour, 165 000 euros à se partager. Ça va jusque, en fait, c'est sur tous les tours régionaux, donc ça va jusqu'au sixième tour, je crois. Au total, la fédération qui lâche presque 700 000 euros quand même. À partager. Ça va permettre d'avoir des belles installations dans les petits clubs dont tu as cité quelques noms tout à l'heure.
Il y a du budget à la FFF.
Il y a du budget à la FFF, merci les Bleus à la Coupe du Monde. Dont on ne va pas reparler évidemment ce soir, même si on a une petite pensée pour Lionel Messi, vous avez vu qu'il a arrêté sa carrière internationale. Bon voilà, on ferme la parenthèse. 19h14, merci beaucoup pour cet actu foot le plus long de l'histoire.
Je demande à ce qu'on soit indulgent avec moi, c'était mon premier vrai et très long.
Et je sais que les auditeurs le sont. Dans quelques instants,
on fera mieux que moi.
On va parler Stade de Reims, évidemment. Le temps de s'écouter Aileen Allister et on revient dans moins de 3 minutes. C'est promis, à tout de suite. Sitting pretty for him like it was a goddamn sport. He doesn't know that
I'm well aware, but I don't care. I really don't care. I'm picking petals of the flowers that I got myself. Play pretend he bought them when I put them on the shelf. He loves me, oh he loves me not, but I don't care. Oh he will, I swear. I know he will, I swear. Ballerina flats, blonde hair, 5'4". But I could grow an inch if it makes him like me more. I break a sweat to make this work. Can't you see I'm trying? Oh, I swear I'm trying. But what's a girl gotta do to be loved by you? A girl's gotta do what a girl's gotta do. So I do a 360 till you want me to. A girl's gotta do what a girl's gotta do. I know you love girls
and shit, you got a few.
A girl's gotta do what a girl's gotta do. You want it all, but I only want you.
Asking.
Moi j'aimerais ouvrir le débat.
Ah mais non, là ça les sale, non.
Sport Club.
Le football, c'est franchement, c'est magnifique.
Ah oui, hein.
Le talk.
Avec le Crédit Agricole du Nord-Est sur RJR.
Ah oui, hein, c'est pour ça qu'on en parle depuis tant d'années, le football. C'est quand même un joli sport qui émet tellement d'émotions et on va encore en avoir toute cette saison, hein, des émotions évidemment. 19h passées de 18 minutes, vous écoutez RJR, c'est le talk de Sport Club. On est ensemble et en direct jusque 20h pour parler pied-ballon, pour parler foot évidemment. Et dans quelques secondes du Stade de Reims, tu l'as dit tout à l'heure Gauthier, le Stade de Reims qui vient d'enchaîner et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, deux succès de suite. Là, monsieur Stat, qui sera avec nous, nous aurait dit ça fait combien de temps on recherchera, mais c'est à mon avis milieu de saison dernière. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup
des... Ça remonte il y a longtemps.
Bon, le petit jingle qui va bien, nouvelle mouture, puisque vous savez, j'ai l'habitude dans les jingles de mettre quelques petits extraits du nouveau coach. Il est marseillais, vous savez, le coach, il a un petit accent.
Vous savez.
Alors là, c'est régalade pour la saison, je le sens, c'est parti.
Donc je pars du principe que pour voir ce qui arrive devant, il ne faut pas regarder derrière.
Merci de rappeler que je suis un visionnaire.
Sport Club.
Et aujourd'hui, je suis rouge et blanc.
Planète, Stade de Reims.
Le verre à moitié plein est magnifique.
Et tout ça, c'était dans une seule conférence de presse. On va se régaler toute cette saison, je vous le dis.
Grand philosophe. Hein.
Merci Nicolas Uzaï, qui est déjà effectivement, à défaut d'être un bon entraîneur, qui j'espère le sera avec le Stade de Reims, est déjà philosophe, effectivement. Les amis, le Stade de Reims qui va bien, pour l'instant les feux sont plutôt ouverts pour les rouges et blancs, sans faire de mauvais jeu de mots, puisque on totalise, tu as dit tout à l'heure, 8 points. Oui, c'est
8
ça.
Points.
Deux victoires, deux nuls. Invaincu, c'est quand même quelque chose à signaler depuis le début de saison. La première question que j'ai envie de vous poser, si on fait un petit tour de table comme ça, les amis. Je vais vous proposer deux adjectifs et vous, d'abord, sans trop argumenter, vous allez me faire votre mot. Marie, est-ce que tu es plutôt pour le début de saison du Stade de Reims et donc pour la suite, plutôt enthousiaste à l'idée de voir défiler cette saison ou encore prudente?
Moi, je dirais un enthousiasme mesuré.
Ok. Je te laisse argumenter dans quelques instants. Shérif, enthousiaste ou prudent?
Plutôt enthousiaste.
Magnifique.
Tu connais ma réponse.
Prudent.
Enthousiaste et prudent.
Ok, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Marie, alors explique-nous un petit peu ta vision des choses.
Bah, depuis le début de saison, du coup, on voit une équipe quand même qui sait réagir, notamment face au but encaissé.
C'est vrai que plusieurs fois, ils ont été menés au score déjà.
Voilà, c'est ça. Et malgré tout, une réaction assez rapide, notamment face au Red Star.
Ouais.
L'attaque, elle est très pertinente, chose que je pense que beaucoup de supporters recherchaient depuis un moment.
Le fameux attaquant qui marque des buts.
Voilà, c'est ça. Offensivement, on peut dire qu'on est plutôt bon. Après, à voir dans la régularité. Voilà, moi, c'est ça. Le mesurer, c'est comment le Stade de Reims va pouvoir être régulier sur cette saison et puis réussir à offrir du beau jeu tout au long de la saison sans tomber dans une dynamique montante et ensuite descendante. Quoi.
Ouais. Ce qui est le risque avec une équipe, on y reviendra, qui est peut-être un peu jeune pour trouver de la régularité. Shérif.
Plutôt d'accord avec Marie, effectivement, je trouve que devant, c'est très cohérent ce que le stade propose. Donc c'est pour ça que j'ai dit plutôt enthousiaste. Après, effectivement, moi j'ai une réserve, c'est sur la défense. Sur les trois derniers matchs, on encaisse, on concède l'ouverture du score à chaque fois. Et même si on sait réagir, je pense que c'est pas quelque chose qu'on pourra faire tout au long de la saison. Il va falloir trouver un peu plus d'équilibre défensif.
Et de la réussite, d'ailleurs, t'as raison de le dire, parce que contre le Red Star, le Stade de Reims n'encaisse, entre guillemets, qu'un but.
Mais il y a eu l'arrêt sur pénalty, donc on aurait pu encaisser plus tôt. Vient bien le match précédent parce qu'il y a une erreur du gardien aussi. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens et je pense qu'il va falloir progresser un peu défensivement sur la suite de la saison.
Ok.
Plutôt d'accord avec vous, je suis d'accord avec Marie, sauf petite réserve sur la recherche de beau jeu. On va se contenter déjà d'un...
C'est l'une des ambitions en tout cas.
La régularité, c'est déjà bien. On va, voilà. On rappelle, c'est le Stade de Reims quand même. Non, honnêtement, une équipe qui.
Là c'est le cumul des années de déception qui te font avoir cette prudence-là ou cette exigence limitée.
Est-ce que je dois être 100% honnête maintenant dès la première émission ou...
19h22, oui, exercice
maintenant,
de...
directement, oui. Je dirais que j'ai un petit peu perdu foi dans ce club, mais je ne demande qu'à.
Qu'à
être surpris et à ce que mon avis change au cours de cette saison.
Bah là, le début de saison, comptablement, est bon.
Comptablement,
est
oui, effectivement, il n'y a pas de défaite et des victoires. C'est pas seulement une invincibilité avec que des matchs nuls à 0-0. Il y a des victoires. Il y a des 3 points pris.
C'est d'ailleurs ça, Théo Léoni qui l'expliquait quand je crois que c'était le premier match nul à domicile. Il y a un des confrères qui lui dit des fois il faut savoir ne pas perdre quand on n'est pas en capacité de gagner. Vraie phrase qu'on connaît dans le sport et dans le foot particulièrement. Et Théo Léoni qui a très justement répondu oui, mais en fait on s'est rendu compte l'année dernière que d'enchaîner les matchs nuls c'était pas ce qui nous faisait monter au classement quoi. Shérif, tu voulais intervenir?
Oui, moi je pense que le début de saison aurait pu être mauvais s'il n'y avait pas eu cette victoire au Red Star. Donc si on avait fait nulle victoire et défaite. Sauf que là, la victoire, je pense, fait passer du bon côté. Déjà au classement, on est deuxième. Et ouais, ça fait basculer, je pense, même mentalement l'équipe dans la volonté de conserver cette série de victoires qu'on vient de commencer. Deux, il y a la réception ce week-end de Guingamp, donc il faut avoir la volonté d'enchaîner une série de victoires. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu deux. Trois, je pense, encore plus longtemps, du coup. Et
il faut
avoir cette volonté-là d'enchaîner parce que l'année dernière, on a été beaucoup au contact tout au long de la saison et on a un peu perdu le fil dans des moments clés. Donc là, quand on est en forme, il faut savoir prendre les points.
Je reviens vers toi, Marie, parce que tu disais, c'est toi qui as la première parlé de régularité. Est-ce qu'on peut avoir cette exigence-là avec un groupe qui est quand même globalement jeune, jeune en âge et jeune en expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent le sport professionnel depuis le début de saison. J'ai l'impression, c'est mon sentiment, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que c'est une équipe qui a du talent. Ça semble assez évident, mais c'est une équipe qui va être capable de fulgurance par moment et puis de trous noirs. Pour moi, l'exemple même de ça, c'est Samuel Coteau, qui n'est pas le plus jeune d'ailleurs, assez bizarrement, mais qui va être capable de faire des interventions très solides avec beaucoup d'autorité défensivement et qui, sur une ou deux actions, et défensivement ça se paye cash, va faire l'erreur de concentration ou pas qui va être fatale à l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir cette exigence-là de régularité avec cette équipe-là, selon toi?
Je pense que, comme vous le disiez, l'effectif déjà il a été renouvelé en majeure partie. Aujourd'hui, l'exigence elle pourra être demandée à un certain moment de la saison aussi. Là, je pense que le Stade de Reims est en recherche d'automatisme. Forcément, ça vient aussi avec le temps. Comme on dit, la mayonnaise elle prend pas forcément tout de suite.
En plus, avec un nouveau coach.
Voilà, c'est ça, avec un nouveau coach qui s'impose aussi avec une philosophie, mais je pense qu'on en reparlera peut-être après. Après, voilà, il faut quand même être enthousiaste sur le fait que il y a déjà 8 points l'esprit, ce qui annonce peut-être quelque chose de beau si toutefois on garde cette même dynamique et l'envie d'avancer avec un groupe homogène. Et ça va être le travail du coach en fait, de créer cette osmose entre les joueurs et entre les jeunes et les moins jeunes.
Ça c'est quelque chose qu'on avait perdu les saisons passées, notamment avec Lucas Elsner, tout ce contrôle de groupe. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important et fondamental que Nicolas Hossay doit aller chercher dès le début pour tenir son collectif tout au long de la saison, sachant que moi, de ce que j'ai vu déjà sur les premiers matchs, je vois quand même un effectif qui aime jouer ensemble. En tout cas, il y a déjà des sourires, le groupe vit bien. Après, le groupe vit bien tant que le groupe gagne aussi, c'est possible, à voir comment cela évolue, mais je pense que si le travail est fait... au niveau du staff, sans parler d'administration, parce que on est qu'à 4 journées.
On n'y est pas encore, on en parlera tout à l'heure.
On attend l'hiver.
Bon, déjà, on va parler du projet Révélation tout à l'heure, il y aura de quoi dire.
Mais pour le moment, il faut faire ce réel travail qui, pour moi, est nécessaire et qui permettra, je pense, au Stade de Reims d'arriver à arracher, on va dire, cette quête de montée.
Ils sont jeunes, mais je trouve que mentalement, il y a quand même de la ressource. Après le match où il y a 3-1, puis 3-3, on aurait pu se dire que ça allait peut-être un peu s'effondrer.
Ouais, contre Dunkerque, ouais.
C'était quand même très dur de prendre ce penalty à la dernière minute. Il y a quand même eu une réaction sur les matchs d'après, et il y a eu des réactions dans les matchs après les ouvertures des scores, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas souvent que ça arrive quand même de renverser des matchs. Là, le Stade a réussi à le faire plusieurs fois. Donc je pense que même s'ils sont jeunes, ils ont quand même les ressources mentales pour faire une bonne saison et pour viser la montée.
Ouais, ah, carrément, ça y est, les mots sont lâchés. J'avais dit dans un de mes résumés de match, vous allez sur sportclub-reims.fr, vous avez des résumés de tous les matchs du Stade de Reims, que cette équipe était, et je rejoins un peu ce que tu disais, Chérif, résilient, c'est le mot que j'ai dit, parce que régulièrement, quand même, d'avoir cette mentalité, les ressources, surtout quand on est jeune, d'aller chercher des buts encaissés, c'est pas promis à tout le monde. On voit Nantes, hein, dès que... Alors là, contre... C'était Guingamp
C'était Guingamp, oui.
On sent qu'il y a le changement de coach a peut-être permis ce petit pic-là d'orgueil, mais c'est quand même pas simple de revenir rapidement, parce que contre le Red Star, ils n'ont pas eu le temps de tergiverser, en fait. Hein, rapidement, le club est revenu. Et puis, apprentissage, c'est les deux mots que j'ai donnés, parce que c'est une équipe qui doit apprendre de ses erreurs. Et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, c'est une équipe qui donne l'impression, et on va pas tirer de plan sur la comète, qu'elle apprend vite, en tout cas. Le premier match, tu mènes 3-1, tu prends un carton rouge, tu te fais remonter à 3 partout. La fois d'après, tu mènes 3-1, tu conserves cet avantage-là. La fois d'après, tu gagnes 4-1 et tu maîtrises globalement la deuxième mi-temps, même si c'était pas extraordinaire. À défaut de l'être, c'était solide. Il donne l'impression d'apprendre vite.
Il y a une sensation de progression de match en match, je trouve, qui est remarquable. Et le but, c'est de la conserver, de continuer à progresser.
Ouais. On parlait du coach, tu voulais en parler un petit peu, Marie, Nicolas Uzaï, qu'on découvre un petit peu, alors qu'on connaît, les mauvaises langues diront qu'on l'a connu quelques kilomètres de là, dans une autre division avec Sedan, qu'on a découvert en Ligue 2 avec Pau. Les Palois qui ont fait un bon début de saison. D'où peut-être ta prudence aussi, ensuite ça a été un peu plus compliqué pour les Palois l'année dernière. Quelles sont tes premières impressions, toi Marie, sur Nicolas Uzaï et son bel accent marseillais?
Ouais, c'est ce que j'allais dire, un très bel accent, mais surtout une vraie philosophie imposée, ne serait-ce que dans sa conférence d'avant-match face au Red Star. Voilà, il explique aussi que lui, ce qu'il recherche, c'est la régularité. La régularité, pas que dans le résultat, mais aussi dans le contenu.
Ouais.
C'est vrai qu'on voit quand même que le Stade de Reims... il y a des temps faibles et des temps forts, c'est sûr, comme dans tout match, mais c'est assez contrasté quand même dans un même match, ces différents temps, souvent qui se comptent même en 20 minutes, ça change de 20 minutes à 20 minutes.
Ouais.
Mais en tout cas, une vraie philosophie et je pense un vrai potentiel pour pousser le groupe, un cadre, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qu'il doit rechercher, je pense, c'est rechercher son cadre dans l'équipe.
Avec encore des automatismes, parce qu'on voit bien que le 11 titulaire, pour l'instant, n'a pas l'air d'être très stabilisé, notamment devant. Alors ça fonctionne, hein, parce qu'à chaque fois le Stade de Reims marque des buts, mais par exemple le CF El Khadchati était titularisé contre le Red Star, alors qu'en début de saison il semblait que c'était Sambou Soumanou qui avait plus les faveurs des pronostics de Nicolas Uzaï. Chérif, c'est...
Oui, El Khadchati qui jouait plutôt même sur le côté, qui a été réaxé contre le Red Star. Je trouve que ça a été beaucoup plus convaincant dans l'axe que sur le côté.
C'est un joueur qui est très énergique, hein, et
qui a beaucoup de présence dans la,
ah ouais,
dans la surface.
Il fait les efforts.
Qui a un peu ce profil à l'ancienne, je trouve, d'être bien placé sur les seconds ballons. On a pu le voir, il était sur le second ballon, ouais, sur le premier but.
Un peu et renard des surfaces.
C'est ça.
Ouais. Et il a, d'ailleurs, sur ce, c'est quoi, c'est le premier ou deuxième but qui met de la tête là, un peu au raccro, c'est un peu ça. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis ouais, c'est exactement, c'est le premier. Et sur le deuxième, il jaillit bien derrière le défenseur.
Oui. Donc le premier, ouais, plus vif.
On voit qu'il a vraiment envie d'y aller et de marquer des buts. Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent de le mettre dans l'axe. Et Soumano m'a pas vraiment convaincu non plus sur le début de saison. Je l'ai pas trouvé très très bon. Je ouais, pense que si on doit mettre un 9 sur ce que je vois dans ce début de saison, ce serait plutôt El Khachaty que Soumano.
On dit souvent qu'un premier but pour un attaquant, c'est quand même un déclic, une sorte de soulagement. Là, les deux ont marqué. Alors, Soumano, c'est sur pénalty, mais ça doit quand même libérer. C'est bien que ça arrive aussitôt dans la saison, quatrième journée, pour toi?
Oh oui, bien sûr. Bon, c'est sur penalty. Il l'a mis.
Ça fait un but.
Oui, il l'a mis. C'est très bien. Faut que ça continue. Effectivement, si au bout de 5, 6, 7 journées, il n'y a pas de but, là, on sait que pour les attaquants, ça devient très compliqué.
On en a connu tellement par ailleurs.
C'est ça.
Et si c'était lui.
On a eu Follarin Balogun quand même.
Et Ekitike.
Et Ekitike, voilà, quand ça commence à remonter.
On était en Ligue 1.
On a revu Ekitike à Delonde, a généré quelques émotions.
C'était en Ligue 1.
Et tous les attaquants n'ont pas encore marqué. Je crois que Darami n'a pas encore marqué cette saison, si je dis pas de bêtises.
Peut-être pas, oui, non, c'est vrai. Bah, en plus, il s'était blessé, il était sorti un peu plus tôt sur la deuxième journée. Ouais.
C'est lui le prochain.
On lui souhaite. Mais Mohamed Darami apporte tellement aussi dans le jeu qu'offensivement.
Il fait beaucoup de différence. Ouais. Ça se traduit pas forcément dans les stats, parce que là, il n'a pas de stats, je pense, ni en but, ni en passe D. Mais la façon dont il joue, ça permet quand même de bien déséquilibrer les défenses adverses. Et ça apporte beaucoup à l'attaque du stade.
Gauthier, ce qui est intéressant chez Nicolas Uzaï, c'est aussi sa gestion des remplacements, par exemple. Il s'est notamment expliqué samedi après-midi sur la sortie très précoce du petit Chamseddine Kouramfall, qui avait fait un très très bon match lors de la troisième journée. Il était tout jeune, et puis c'était son deuxième match professionnel, et il sort à la 38e minute, et il nous explique, bah, écoutez, il a pris un carton jaune, il était tout proche du carton rouge, moi j'ai pas eu peur de le sortir parce que le but, c'est de finir à 11, quoi. Donc quel que soit le statut du joueur, s'il y a besoin de prendre une décision, il n'a pas peur de la prendre.
Je pense qu'il y a deux choses à en tirer. La première, c'est qu'il sait qu'il évolue avec un effectif qui est assez jeune et qui donc part du principe qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on va dire, du point de vue professionnel avec ses joueurs. Alors je sais pourquoi tu rigoles, Julien.
On sait tous les deux pourquoi tu rigoles. Non, moi je rigole pas, moi.
C'est vraiment pas sympa ce que tu es en train de faire.
Je te pose une question sur Nicolas Uzaï.
Mais il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Donc la première, c'est qu'il évolue avec un effectif jeune. Je vais essayer de pas rire une deuxième fois, et je vais éviter de te regarder, Julien. Et qui donc, pour moi, ça explique, on va dire, ce choix d'éviter, on va dire, les petites bêtises liées à la jeunesse. Et puis je pense aussi qu'il y a une recherche de flexibilité, la capacité à pouvoir faire jouer son effectif, la plupart de ses joueurs, de manière constante, sur des postes différents. Ça lui permet, on va dire, au fur et à mesure de la saison, avec parfois des complications physiques sur certains joueurs, on va dire, d'avoir des seconds rôles à mettre en place, et donc on va dire de pouvoir se sortir de quelques pétrin quand l'effectif est trop limité. Ce qu'on a pu connaître, hein, sur des saisons passées, et je pense qu'aussi la forme globale de l'effectif, la forme physique et mentale, parce qu'on a aussi des joueurs qui vont vouloir jouer et qui, je pense, permettra d'avoir un groupe qui vit bien au fur et à mesure de la saison.
Il y a un groupe officiellement qui est assez light, hein, finalement. Hein, professionnellement, il y a 18 joueurs, plus évidemment les deux ou trois gardiens, selon qu'on compte Soumaïla Sylla ou pas. C'est finalement assez peu quand on sait qu'aujourd'hui, sur une feuille de match, c'est l'une des nouveautés, hein, de ce championnat en Ligue 2 cette saison, on peut coucher 20 noms sur les feuilles de match, comme c'est le cas du reste en Ligue 1. Donc ça veut dire qu'automatiquement, il est obligé d'aller piocher dans le gros prince révélation.
Exactement.
On va y revenir dans quelques instants. J'aimerais qu'on parle quand même globalement, parce qu'il est déjà 19h34, si vous nous écoutez sur RGR, du mercato, qui se termine dans 24 heures et 27 minutes, très précisément, officiellement. J'étais en train de regarder, là, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement officiel, en tout cas, ni dans le sens des arrivées, ni dans le sens des départs. C'est surtout dans le sens des départs qu'on attend quand même que ça bouge, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une sorte de petit loft qui s'est créé au centre d'entraînement Raymond Coppa du Stade de Reims, avec quelques joueurs qui sont désormais devenus indésirables. Non pas qu'ils n'aient pas la qualité technique, footballistique pour évoluer en Ligue 2, mais parce qu'ils ont certainement des salaires qui ne permettent pas d'aller en phase avec la conjoncture actuelle.
Un petit loft de qualité quand même.
Un loft qui a quelques valeurs, ouais. Une valeur intrinsèque.
Un petit loft titulaire.
En millions d'euros qui se compte, ouais, qui monte pas mal. On peut penser évidemment à Keito Nakamura, Oumar Diakité est toujours là, Johan de Moncy est toujours là également. J'ai envie de vous poser une question simple. Il reste 24 heures pour leur trouver à ces joueurs-là une porte de sortie. Il y en a quelques-uns sur lesquels on n'est pas trop inquiet. Johan de Moncy, normalement, devrait partir, par exemple. Il y en a d'autres où il y a des enjeux financiers qui sont quand même énormes. Keito Nakamura, c'est 25 millions ou rien pour l'instant. Peut-être que ça va s'infléchir avec le temps qui passe là. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces joueurs si toutefois ils étaient amenés à rester, Marie, on les laisse au loft? Je sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, dans un groupe, même si c'est pas tout à fait le même niveau, d'avoir des filles qui sont un peu à l'écart. Enfin, c'est difficile à vivre quand même.
Bah, je pense que c'est difficile à vivre déjà pour le staff, parce que c'est, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs qui restent sportifs et qui sont là, dans tous les cas.
Bah, puis en plus, qui sont de qualité ou qui ont prouvé par ailleurs leur qualité, quoi.
Voilà, qui ont prouvé dans le club ou dans d'autres clubs auparavant. Mais après, c'est aussi compliqué à vivre, je pense, aussi pour le joueur, parce que forcément, c'est l'incertitude de l'avenir, ça reste quand même un métier. Donc c'est assez particulier, mais la vraie question, c'est de se dire, ça se termine demain à 20h, si je ne me trompe pas. C'est de se dire, demain, après 20h, qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
C'est ça, parce que l'idée de beaucoup de supporters serait, Chérif, de le réintégrer, évidemment, mais vous parliez d'unité d'un groupe. C'est toi, Gauthier, tout à l'heure, qui parlait du groupe qui vivait bien, que le club avait certainement l'envie de travailler ensemble. Quand un pion qui n'est plus tout à fait dans le groupe et qu'on est peut-être potentiellement amené à réintégrer, quand on connaît aussi le pédigré du joueur, je parle pas techniquement, footballistiquement, mais surtout dans le passif qu'il a eu l'année dernière, on rappelle qu'il y a eu une petite grève, une petite bouderie, on va appeler ça comme ça, la saison dernière, il y a pile un an. Bon, je sais pas si tout le monde a envie de le voir revenir, ce joueur.
Alors, je sais pas si tout le monde a envie de le voir revenir, je sais pas si lui aussi a envie de
revenir. Ah oui, ça c'est une vraie question, t'as raison.
Est-ce qu'il va vouloir, justement, on disait que la saison dernière, il a un petit peu boudé, est-ce qu'il va pas rebouder cette année s'il a pas son départ?
D'autant plus qu'il y a plus de Coupe du Monde comme carotte à la fin de l'année.
Exactement, on avait vu qu'il avait été décisif en fin de saison, notamment sur quadruplé, qui avait bien rehaussé sa saison au niveau statistique. Là, il y a pas de carotte, donc est-ce que lui a envie de revenir? Moi, c'est plutôt ça la question que je me poserais, parce que je pense qu'un joueur de cette qualité, c'est quand même difficile de s'en passer quand on est en Ligue 2 et qu'on a un groupe aussi jeune. Ça peut être aussi un cadre qui peut emmener l'équipe. Mais moi, je pense que la balle est plutôt de son côté. Est-ce que lui voudra revenir dans le groupe, participer à une saison de Ligue 2, une deuxième d'affilée, pour un joueur qui a quand même normalement l'ambition d'évoluer au-dessus de cette division-là?
Sur le sujet, Gauthier, dans le sens des départs, on parle de Nakamura parce que c'est la plus grosse valeur marchande, en fait, hein.
Le Stade de Reims en demande beaucoup trop, selon moi, comme d'habitude, hein. On commence à avoir l'habitude.
Patrick Zabi est parti pour le même montant, donc on se dit pourquoi pas, quoi.
Bah oui, mais à un moment donné, ça passe pas tout le temps. Et puis, on va dire que Patrick Zabi a un peu plus de marge, étant donné qu'il est jeune. Alors peut-être qu'on peut faire évoluer
le joueur. Il y avait des années de contrat aussi.
Keito Nakamura, il y a moins de marge, tu le disais, au niveau du contrat, même par rapport à l'âge. Alors il y a beaucoup d'expérience, il a un très bon niveau, mais difficile de le faire évoluer. Aujourd'hui, il va atteindre, on va dire, en termes d'âge, hein, on est sur les périodes dégressives en termes de niveau, sur le reste de sa carrière. 25 millions, c'est beaucoup trop.
En Angleterre, ils ont un peu d'argent.
Oui, mais il n'a pas le niveau pour l'Angleterre.
Son agence travaille beaucoup avec l'Angleterre.
Le respect que j'ai pour le joueur et ce qu'il a apporté, mais pour moi, c'est un joueur qui n'a pas du tout les qualités pour jouer en Angleterre. Et au-delà de ça, si on parle purement footballistiquement et du bien-être du groupe, réintégrer un joueur, que ce soit pour le groupe ou même pour le joueur en tant que tel, la conscience de ne pas avoir été voulu pour cette saison et d'être réintégré, c'est compliqué de se dire je réintègre un groupe, un effectif, alors que de base on ne voulait pas de moi. Et l'effectif derrière aussi, c'est si aujourd'hui on réintègre Nakamura dans cet effectif, sans avoir forcément participé à la pré-saison, sans avoir participé ou on va dire fait les premiers matchs de ce championnat, et on... partant du principe qu'on le dispose comme titulaire, quel message on envoie aussi à l'effectif par rapport aux places
ça s'est déjà fait l'année dernière par la force des choses.
Et ça, c'est un souci aussi. Ça va être,
on s'était déjà posé un peu les mêmes questions l'année dernière. Finalement, même s'il n'a pas été performant, en tout cas à la hauteur de ce que beaucoup de supporters attendaient et beaucoup d'observateurs, en tout cas, force est de constater que son intégration dans le groupe n'a pas été mauvaise. Chérif, tu voulais dire?
Ouais, pour le message envoyé à l'effectif, je pense qu'effectivement Gauthier soulève un bon point. Après, pour le sentiment de ne pas avoir été voulu par le club, je pense que là-dessus c'est moins un problème, dans le sens où les deux sont plutôt d'accord sur le fait que le Stade de Reims veut le vendre et lui veut partir aussi. Donc je pense pas qu'il y a cette. Oui. Après, il y a peut-être ce truc-là de, effectivement, le Stade en demande beaucoup trop. Mais sur le principe, les deux sont plutôt d'accord sur ce qu'ils veulent faire de leur avenir commun.
On va voir ce que le jeu de l'offre et de la demande va proposer dans les dernières heures du mercato, qui se termine donc demain à 20h sur une partie du marché. Hein. C'est toi, Chérif, qui disais tout à l'heure en préparant l'émission que il y a certains pays, je crois même en Asie, etc., où il y a quelques heures de décalage.
Les principaux championnats, c'est demain, je crois que même une heure ou deux heures après nous en France.
Ouais.
Et ensuite, il y a quelques championnats, Pays-Bas, Turquie, Arabie Saoudite, qui restent ouverts quelques jours de plus.
Sachant que, pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi là ces derniers jours, Jordan Sibachu a quitté le Stade de Reims officiellement et définitivement pour une équipe de deuxième division allemande. Reda Kadra est parti aussi, il est parti à Karabag. Et puis dans le sens des arrivées, il y a eu quelques réflexions qui ont été portées à la possibilité de recruter quelqu'un en milieu de terrain. On rappelle que Maurice Banné s'est blessé en début de saison pour une quand même longue durée, donc ça faisait quand même un joueur d'expérience en moins au milieu de terrain. Et pour l'instant, compte tenu du début de saison, le Stade de Reims partirait sur la possibilité de recruter en interne, quoi, finalement.
Et surtout le brassard au premier match aussi, donc tu perds le capitaine. Oui. Qui était censé être le capitaine de ta saison, je pense.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je trouve que Théo Léoni fait un bien meilleur capitaine.
Ouais. J'ai beaucoup aimé ces derniers matchs. Ouais.
On aura l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine. 19h passé de 41 minutes. La petite transition avec Reims Révélation est parfaite. Juste le temps de s'écouter Daisy. Et on revient dans quelques secondes donc, pour la dernière partie déjà de cette première heure de la saison. C'est parti, à tout de suite.
Changé. Et quand on se parle, rien que je reconnais. Tu sais plus rien de ma vie, ça m'effraie. Pourtant c'est avec toi que j'ai tout fait. On a tout fait. Et on fait semblant, on fait comme avant. On laisse passer du temps, peut-être trop de temps. Pardon si je ne réponds pas quand t'appelles. Pardon si je ne te donne pas de nouvelles.
C'est magnifique.
Ah oui, hein.
Le Talk.
Avec le Crédit Agricole du Nord-Est sur RJR.
Et oui, on n'oublie pas notre sponsor cette saison, vous allez l'entendre à chaque jingle, hein, donc il va falloir s'y faire, et on remercie évidemment le Crédit Agricole du Nord-Est, qui est un partenaire du foot, et particulièrement du foot régional. On a parlé de la Coupe de France tout à l'heure, le Crédit Agricole qui participe particulièrement. 19h passées de 44 minutes, vous écoutez le Talk de Sport Club, c'est la première de la saison, on est le lundi 31 août, je sais, demain c'est la rentrée, on n'a pas tellement envie d'aller se coucher ce soir, parce que demain il va falloir se lever tôt pour aller à l'école, on va découvrir notre emploi du temps. Oubliez tout ça là, pendant encore un bon quart d'heure, vous écoutez le Talk de Sport Club, on parle foot ensemble, on est bien. Et du coup, bah, nous on est content de vous accueillir. Les amis, on a beaucoup parlé du Stade de Reims, il faut encore qu'on en parle un tout petit peu, parce qu'il y a quand même une des nouveautés de cette saison, elle va bien au-delà de l'équipe première en Ligue 2, c'est le nouveau projet qui s'appelle désormais Reims Révélation. Voilà, c'est sorti du chapeau comme ça, là, c'était l'annonce du début d'été, du milieu d'été. Eux, ils reprenaient, nous, on partait seulement en vacances. Donc, il y a eu un petit décalage comme ça. Reims Révélation, donc, en fait, Chérif, si tu peux bien nous expliquer, c'est la nouvelle philosophie de la formation rémoise, en fait. Hein.
Exactement. Alors, le 28 juin dernier, pardon, le Stade de Reims dévoile Reims Révélation, la version 2.0 du groupe Pro 2, avec la même ambition, révéler tous les talents. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière en 2018. Le Stade de Reims a lancé le groupe Pro 2 pour accueillir trois typologies de joueurs. Les jeunes du centre de formation, les jeunes internationaux en post-formation et des joueurs qui ont un peu quitté les parcours classiques pour devenir footballeurs professionnels. Alors, le groupe Pro 2 a permis de faire émerger des profils comme Boulaïdia, Axel Dizazi ou encore Ilan Kebal, mais les jeunes issus de l'académie ont pris de plus en plus de place, à l'instar de Ekitike ou Valentin Tangana, et mécaniquement, il y a eu moins de place pour ces profils plus atypiques. Ouais. En tout cas, c'est ce que le Stade de Reims dit pour justifier en fait la création de ce nouveau groupe Reims Révélation. Et donc c'est de cette réflexion qu'est née Reims Révélation, une nouvelle structuration autour de deux groupes de 17 joueurs, le groupe élite constitué des pépites du centre de formation et des jeunes talents internationaux, et le groupe espoir pour les joueurs au parcours moins linéaire. Alors deux groupes qui évolueront dans des compétitions distinctes, on en a parlé tout à l'heure, le groupe élite dans le championnat des réserves professionnelles et le groupe espoir dans le championnat FFF dans lequel le club est engagé, et cette année c'est en R1. Alors cette stratégie qui vise à développer, valoriser et revendre des joueurs à bon prix, ça a été une force du club dans un contexte Ligue 1, et je pense qu'il faudra vite retrouver la Ligue 1 pour que ce modèle soit aussi efficace, notamment dans la valorisation des joueurs sur le marché des transferts.
Évidemment, parce que c'est quand même la finalité, hein. Effectivement. Bon, bah, tout ça est très clair expliqué comme ça, merci beaucoup Chérif. Même si dans les faits, puisque j'ai regardé un petit peu les feuilles de match du groupe R1, tout est un peu mélange, et j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même beaucoup de vases communicants entre les deux groupes élite et la R1 et la réserve pro. Et du coup, il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de supporters qui nous écoutent. Certains qui disent, bon, bah, on n'a rien révolutionné, quoi. On a juste changé le nom et puis on a fait une réserve avec. Et puis certains qui disent que c'est génial parce que c'est l'avenir de la formation à la française. Marie, ton point de vue, toi, la première réaction que tu as quand tu découvres un peu ce projet-là, c'est quoi ta première réaction, très, très franchement ?
Bah moi, très honnêtement, j'étais un petit peu, j'avais un peu le point d'interrogation de savoir ce que c'était.
Comme beaucoup.
Ouais. Et là, j'en apprends encore davantage par l'explication de Chérif, mais même autour de moi, hein, quand j'ai questionné justement pour voir un petit peu le sujet, bah, y a beaucoup de monde chez qui c'était vraiment pas clair. Je suis plutôt d'avis à dire. Ouais, c'est bien, mais à voir sur l'avenir, parce que pour le coup, c'est un petit peu, je pense aussi, du coup, cacher un petit peu la descente l'année dernière de l'équipe réserve en R1. Peut-être, je sais pas, une forme de dévalorisation un petit peu de l'équipe réserve, et pour camoufler un peu ça, ils ont créé ça. Mais c'est assez innovant quand même le concept, donc à voir.
Bon, Gauthier, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce projet présenté en grande pompe, hein, quand même, hein. Il y avait tout le monde, il y avait Mathieu Lacour, il y avait le président Caillot, il y avait Nicolas Uzaï, il y avait tout le monde.
Qu'est-ce que cela m'inspire ? Je dirais que ça ne change rien au Stade de Reims Goldman Sachs qu'on connaît actuellement.
C'est bien trouvé, ça, j'aime bien.
Le Stade de Reims Goldman Sachs, ça serait un très bon sponsor. Je trouve.
Mais il faudrait qu'on leur écrive, ouais.
Pour cette équipe du Stade de Reims, je trouve que voilà, on aurait enfin quelque chose de cohérent. L'argent, finalement.
Là, faut leur demander de prendre des parts de marché, hein.
Ah, mais.
Plus qu'être d'être un partenaire.
Oui, mais ils ont plus besoin. Ils ont leur investissement. Le Stade de Reims, c'est le Reims Espoir. C'est exceptionnel. On continue dans cette lancée de l'achat-revente et qui est vouée à mener sportivement au néant. Puisque,
ah ouais, carrément.
Et oui, puisque finalement c'est un club qui n'évolue pas, qui économiquement et sportivement a un effectif qui n'évolue pas, qui recrute une saison où les finances vont mieux de gros joueurs. Je pense à l'époque d'Arami Nakamura où voilà, on avait eu des grosses dépenses et qui finalement.
C'était la dernière, le dernier mercato effectivement où le club a été très dépensé. C'était Will Steele l'entraîneur à l'époque.
Et parce que les caisses du club allaient très bien et qui finalement n'ont pas réussi à faire ce dont les supporters voulaient. En fait, le souci étant que moi j'ai toujours une vision des choses footballistiquement qui est la recherche du développement sportif et pas économique. Bien évidemment,
les deux sont liés,
mais il faut pas que le problème économique soit défaillant en fait pour le développement sportif.
En fait, ce que tu reproches, c'est que au début, cette politique de trading permettait le développement du club, et aujourd'hui, c'est devenu,
on va dire juste un business pour le club,
et même un élément de survie pour continuer d'exister, quoi.
C'en est un, même si je pense qu'aujourd'hui le stade de Reims, surtout en plus en Ligue 2, avec toutes les charges que ce club a réussi à retirer. Au fur et à mesure des saisons, notamment par rapport aux féminines, par rapport aux gros salaires, il y a eu quand même pas mal de charges qui ont été enlevées. Aujourd'hui, c'est un club qui n'a pas du tout les mêmes difficultés économiques qu'il possédait en Ligue 1 et qui
forcément,
a plus de marge de manœuvre.
Les coûts sont pas les mêmes.
Mais sur les deux dernières saisons, avec le nombre de ventes effectuées et au prix effectué, je pense que s'il y a plus de marge de manœuvre qu'on le pense.
Alors, on doit quand même rappeler.
J'ai pas forcément attention que le Stade de Reims est un club très riche. Je dis simplement qu'il y a la possibilité de faire quelque chose actuellement, de potentiellement, ne vous enflammez pas, à remonter en Ligue 1. Mais c'est pas une fois que le Stade de Reims reviendra en Ligue 1 qu'il faut directement revendre tout cet effectif. Il faut essayer sportivement, concrètement, d'aller chercher quelque chose. Et pas dès qu'il y a une grosse offre, sortir son joueur.
Ce qu'on comprend de la stratégie, c'est de les mettre dans un cocon qui soit le plus adapté possible pour leur permettre de performer rapidement, le plus rapidement possible, sans s'inscrire sur la durée au club, mais pour en faire une vraie plus-value. Là, l'histoire, elle est claire.
Et pourquoi faire ?
Bah pour continuer d'exister en fait,
le but d'un club et d'une formation, c'est de former ses propres joueurs pour soi, c'est pas de les envoyer.
Ouais, mais à partir du moment où...
Parce que cet argent-là n'est pas réinvesti derrière.
Ah si, il est réinvesti beaucoup dans le centre de formation, il y a des travaux qui vont être engagés d'ailleurs sur le centre de formation très prochainement, et il y a des annonces qu'on ne peut pas annoncer là tout de suite qui vont être annoncées.
Est-ce que la réalité aujourd'hui, elle est réellement... dans le sens du développement du club, d'aller chercher des résultats.
Bah c'est ce que le club t'explique, après on a le droit de pas y croire.
Mais moi j'y crois pas, c'est ça que je dis, je n'y crois pas et c'est dommage.
Parce que
on a compris... Si on se place sur un niveau économique, en fait le problème la limite de ce projet là, c'est que si t'es en Ligue 2, ça va naturellement limiter la valeur sur le marché de tes joueurs.
Automatiquement.
Et ce sera pas comme c'est en sûr. Ligue 1, où même si t'arrives à vendre des joueurs, on a vu que le gardien est parti très très cher à Newcastle, ouais. Mais tu pourras pas faire ça sur tous les joueurs.
Oui, il joue pas d'ailleurs.
Et c'est pour ça aussi que Nakamura, on est le 31 août et qu'il est toujours au club. C'est que tu peux pas te permettre de les vendre au même prix que si t'es évolué en Ligue 1. Et ça va être pour moi la limite de ce projet-là.
Du coup, ça veut dire que ce projet quand même a le mérite d'exister selon toi, Chérif, parce que on se rend bien compte que, alors évidemment aujourd'hui, il possède un nom un peu différent que dans les autres clubs, mais on s'aperçoit que tous les clubs font un peu la même chose, sauf les clubs les plus riches ou qui ont des gros investisseurs derrière. On pense au Paris FC, on pense au Paris Saint-Germain, à Monaco dans une autre mesure. Les autres clubs sont un petit peu en galère et font un peu la même chose. Il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de droits télé, le merchandising est quand même très très limité. Donc en fait, à part la vente de joueurs, il n'y a pas grand chose en recette.
Non, c'est vrai, il a le mérite d'exister, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en faisant des recherches un petit peu sur ce projet, j'ai quand même du mal à voir les grandes différences entre ce projet-là et le projet Groupe Pro 2. Alors, à part le fait d'avoir deux équipes.
On a changé de nom, ouais.
Et d'avoir deux équipes, alors peut-être qu'il y a plus de joueurs, du coup, vu qu'il y a deux équipes.
Ouais, il y a une trentaine. Je crois qu'au total.
Moi, j'ai vu deux groupes de 17 joueurs, donc 34
au total. 17-18 joueurs. Si on compte l'équipe pro, le groupe Révélation et certains joueurs de l'équipe U19 qui ont aussi quelques petits, très petits contrats, on n'est pas loin de la soixantaine de joueurs sous contrat au Stade de Reims. Hein. Ouais. C'est quand même énorme.
C'est
avec 80% de joueurs pour la plupart venus de l'étranger, tout pays confondu. On va donner la chance au produit. De toute façon, on n'a pas le choix que de le commenter, nous. Hein.
On va voir.
les amis, 19h53. Marie, je voulais te donner la parole parce que je voulais qu'on parle. Et c'est une volonté qu'on a cette année de parler un petit peu plus que les autres années du foot régional. Tout à l'heure, Gauthier nous a donné quelques résultats, puisqu'on en est à la J2. j'allais dire seulement, mais bon, il faut bien que ça commence, hein, de ce championnat de Régional 1. On va vous donner également, si vous allez sur sportclub-reims.fr, vous aurez les résultats en R2, en R3. Je sais que c'est des championnats que tu suis un petit peu, et on a envie d'en parler parce que vous qui nous écoutez, vous en faites peut-être partie de ces championnats-là, et c'est vous qui êtes nos auditeurs, donc on a envie aussi de valoriser vos efforts chaque week-end et chaque semaine à l'entraînement. Ça y est, c'est parti pour un championnat qui m'a l'air d'ailleurs hyper intéressant cette année, particulièrement en Régional 1, qui est l'élite, hein, le fleuron du foot régional. On a parlé du Stade de Reims, bon, ça va être un peu l'épouvantail, mais on ne sait pas trop si ça va tenir ou pas sur la durée. Sedan qui s'est raté l'année dernière. Cormontreuil, on ne sait pas trop le projet, comment il évolue. Reims-Neuvillette qui débarque avec quelques ambitions, mais peut-être que le maintien sera d'ailleurs une première étape. Il y a d'autres clubs aussi. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette R1 qu'on aime tant ?
Eh ben oui, en effet, la R1, bah, un petit peu contrastée du coup. Là, on est à la combienième journée ?
Deuxième
journée. Donc, il y a déjà eu des résultats qui sont pas forcément, si on reprend la saison passée, qui sont assez contrastés, hein, par rapport au classement de l'année dernière. Après, il y a eu aussi la descente du Stade de Reims, forcément, qui vient.
Ça change un peu tout. Hein.
Voilà, ça change un petit peu aussi l'envergure et aussi ne serait-ce que l'approche de certains clubs quand ils vont jouer le Stade de Reims. Enfin, c'est quand même assez fou de se dire que le Stade de Reims joue contre Cormontreuil par exemple, c'est assez dingue, et je pense que dans la tête des joueurs ça remanie aussi un petit peu la philosophie. Pour le moment c'est un peu compliqué de se prononcer du coup puisque les résultats sont assez contrastés, mais en tout cas c'est à suivre parce que ça reste un très beau championnat avec des très belles équipes qui se développent depuis quelques années quand même.
Ouais.
Notamment je pense à la Neuvillette. Neuvillette qui a un très bon projet sportif et extra-sportif, autant sur la Régionale 1 que sur les jeunes.
Ouais, qui est promu donc cette année.
Voilà, c'est ça. Donc franchement, il y a quand même des belles équipes et je pense des beaux matchs qui vont être à venir dans les prochaines journées.
On parle de promesses et de densité, Marie, Chérif. J'ai quand même, désolé d'être l'empêcheur de tourner en rond, mais régulièrement, parce qu'on a cette particularité en Champagne-Ardenne d'avoir plusieurs poules de R1 et du coup l'accès à l'époque à la N3 était très compliqué pour les clubs champardonnais. C'est toujours celui qui se fait avoir à la fin. Et là, en l'occurrence, c'était Sedan qui a gagné assez largement sa poule de R1 et qui a finalement pas eu sa promotion à espérer. Est-ce à dire que le championnat champardonnais est plus faible que nos amis lorrains ou alsaciens, dont la densité, parce qu'on parle de densité, pour le coup, en nombre de clubs, il suffit de regarder les premiers tours de Coupe de France, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Il faut scroller pendant des minutes et des minutes pour arriver au club de la région, quoi, enfin du département. Mario, Chérif.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je recherchais les résultats et c'est vrai que j'ai scrollé pendant longtemps.
C'est tout en bas en plus.
Mais après, dire que c'est plus faible, je sais pas. Faudrait vraiment comparer sur un match et ça va vraiment dépendre des équipes.
Bah, historiquement, je sais que Cormontreuil s'y est cassé les dents. Reims-Sainte-Anne, un petit peu avant, a eu aussi du mal également. Là, Sedan, pareil.
C'est vrai. Après, encore une fois, je pense que ça va aussi avec la dynamique des clubs. Pour beaucoup, je pense à Sainte-Anne notamment, a accédé à un certain moment à un très bon niveau. Et puis, d'un coup, il y a eu une chute complète. Et je pense que globalement, tous les clubs ont fait face à ça. Enfin, il y a bien d'autres... plein d'autres exemples. Après, est-ce que c'est du coup le problème, il est dans les clubs ou dans la région ? Ça, c'est à voir, mais en tout cas, il y a quand même des très très bons joueurs. Franchement, on a des joueurs aussi qui sont partis, je pense là cette année, qui a rejoint Sedan du titre,
ouais,
Tom.
Enfin ouais.
Voilà,
on a le meilleur buteur de la saison dernière.
Voilà, c'est ça. Donc on a quand même des très bons joueurs. Après, voilà, encore une fois, c'est réussir à créer un groupe et puis aller justement rencontrer des équipes. Dans la région, dans le Grand Est notamment, qui sont à notre portée, je pense, mais faut mettre les moyens et puis toujours le match, ça se joue 90 minutes et puis il faut aller chercher les grosses équipes et pas se contenter que de jouer les équipes qu'on a l'habitude, les matchs classiques, Neuvillette, Cormontreuil, enfin voilà.
Ça va faire des beaux derbies. Hein.
Ça va faire des beaux derbies, mais à force, voilà, on les voit, c'est des équipes régionales, donc il faut se contenter aussi un peu aller chercher plus loin. Et c'est pour ça que pour moi, le parcours en Coupe de France est assez intéressant pour ces équipes-là. C'est aussi le moment de se montrer et d'aller chercher les grosses équipes.
Et de passer les tours pour avoir le fameux maillot de la Coupe de France. C'est toujours un objectif. Il est 19h58, déjà. déjà, je vous remercie tous les trois pour vos avis et vos interventions, et ça lance bien l'émission. On a plus beaucoup de temps, il nous reste une minute, mais je voulais quand même te donner la parole aussi, Marie, parce que sans dire que t'es notre caution féminine ce soir, c'est un peu la vérité quand même. On n'a pas eu l'occasion de parler du foot féminin. La prochaine fois, on commencera par ça, comme ça, on sera sûr d'en parler. On a vécu, on a fait énormément de débats. Toi, t'étais pas là avec nous l'année dernière sur les choix de la direction du Stade de Reims. C'est un club que tu connais un tout petit peu. A priori, la constitution d'un groupe en Régional 1, on a longtemps douté de la possibilité du Stade de Reims d'engager une équipe en Régional 1. On a donné le résultat tout à l'heure. 5-0, la défaite.
Pour Mulhouse.
Bon, je crois que c'est des très très jeunes joueuses. J'ai pas trop regardé les effectifs, mais je pense que c'est très jeune. Il y a aussi, on va devoir regarder aussi, parce qu'il y a d'autres projets qui naissent en marge du Stade de Reims dans l'agglomération rémoise. Tessie, Galaxy, Besançon, etc., qui évoluent la division d'en dessous en R2. Ça dit quand même un petit peu de l'état du foot féminin et de l'intérêt qu'on lui porte. Évidemment, j'imagine que c'est à déplorer, mais je voudrais avoir ton esprit là-dessus.
Oui, bah surtout dans notre